Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes en mars 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour tout le monde.
Et nous accueillons Thomas Provost. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, nous allons parler un peu de toi, même si on t'a reçu il n'y a pas très longtemps au micro de Proxy Jeux, mais on va expliquer pourquoi tu es encore à cette table aujourd'hui. Mais en attendant, nous allons faire un petit fil rouge pour apprendre à te connaître un petit peu. Alors, ça tombe bien, on essaie de le faire changer tous les ans, comme ça tu ne pourras pas répondre la même chose que la dernière fois.
Très bien.
Thomas, si tu étais une mécanique de jeu.
Ah, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. On va dire le deck building.
Et si tu étais un thème de jeu?
Je dirais... C'est compliqué. C'est compliqué. Si j'étais un thème de jeu... L'évolution.
Ce qui va bien avec le deck building. Si tu étais un élément de jeu.
J'espère un truc solide qui résiste au temps, mais je ne sais pas lequel.
Et finalement, si tu étais un jeu.
Si j'étais un jeu, c'est vraiment très dur aujourd'hui de me préparer. Si j'étais un jeu, un seul, c'est pas un jeu que j'apprécie, mais Cosmic Encounter, parce que c'est fou, il y a plein de choses qui évoluent, et que voilà, et que les règles changent au fur et à mesure de la vie.
Merci beaucoup pour ces réponses. Donc effectivement, nous allons commencer cette interview, et si on te reçoit aujourd'hui, c'est par rapport à un petit communiqué de presse qu'on a reçu une grosse semaine avant le Festival de Cannes, qui nous annonçait la naissance d'une nouvelle société d'édition, donc Mosaic Studio. Et dans ce communiqué de presse, donc il y avait quatre personnes présentées, dont toi, Thomas. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, sur tes camarades, sur cette nouvelle maison d'édition?
Oui, évidemment, un grand plaisir. Bah déjà, l'idée derrière Mosaic, elle vient du constat chez Playpunk et chez Repo Productions qu'une société d'édition, même si elle est successful et qu'elle a beaucoup de jeux, l'équipe des développeurs, elle est souvent en réduite. Et donc, ça fait des années que j'avais envie de travailler avec d'autres gens, dont, des gens dont j'apprécie le travail, qui je pense qu'ils sont brillants. Et donc, soit on les intégrait dans Playpunk, mais c'était pas possible, parce que il faut, même chez Repo Productions, on n'était que deux, Cédric et moi, à faire le dev. Il y avait des assistants de dev, etc. Mais vraiment, le corps du dev, pas l'édito, mais le corps du dev était fait par peu de gens. Et donc ça ne fonctionnait pas là-dessous. Donc j'ai proposé à Antoine, on aurait le fichier, etc. Antoine avait tellement d'autres choses à faire qu'il s'est dit, ben non, on va faire une chose à la fois. Et puis les gens vont pas comprendre peut-être, etc. Donc voilà, je me suis dit, ben j'ai rencontré Mathieu Verdier, enfin je le connaissais depuis longtemps, je l'ai rencontré à Cannes l'année passée en lui disant, ben en fait j'aime bien ton travail, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Voilà, faisons quelque chose, je sais pas encore quoi. Et ça a mis un an à maturer, on a discuté avec Aurélie aussi, dont j'aimais bien le travail, etc. Et de cette idée folle de travailler avec d'autres gens et de lancer d'autres projets, de croire en des jeunes, est venu Mosaic Studio.
Donc Mosaic, ça sera quatre personnes, est-ce que tu peux nous les citer et dire un petit peu les rôles qu'elles vont avoir?
Alors donc moi je suis l'investisseur principal, je suis pas le seul actionnaire, mais c'est moi qui suis l'investisseur financier. J'ai embarqué dans l'aventure Thomas Vormer, qui est notre ancien directeur financier chez Repoprod et qui a géré Repoprod une fois qu'on est parti. C'est lui qui est le boss, c'est lui qui va travailler, j'espère, et beaucoup. C'est vraiment un gestionnaire pour le coup. C'est un, voilà. Et les deux vraiment personnes importantes, ça va être Mathieu Verdier, donc qui est l'auteur de Fédération et de Sous les traces de Darwin et d'autres jeux, et Aurélie qui est une chef de projet depuis des années pour les jeux enfants. Et ça, c'est vraiment nos metteurs en jeu. On l'a redéfini dans le communiqué de presse. Et moi, je vais avoir un rôle d'encadrement, de coach. C'est un mot qui est un peu. Je suis vraiment là pour les épauler. Je suis pas là pour travailler pour eux. Je veux pas qu'ils fassent des jeux Thomas Provost. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'ils fassent des jeux Mathieu et des jeux Aurélie, qu'ils aient leur vision, leur façon de travailler, mais je veux qu'ils fassent du bon Mathieu et du bon Aurélie et qu'ils soient dans, que ça respecte quelque chose qui n'est pas écrit, mais qui est de la bonne édition. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. On fait notre métier, c'est comme le vélo, hein, on sait faire du vélo, mais on sait pas exactement comment on le fait. Un jour, il y aura des écrits sur comment on fait un bon jeu, comment on gère l'ergonomie, comment on gère du packaging, etc. Qu'est-ce qu'il faut mettre à tel endroit, etc., etc. Il y a plein de mantras et de choses que j'ai déjà écrites, ou en tout cas que j'ai en tête. Et donc, c'est ces choses-là qu'il faut qu'ils respectent pour que, même si c'est pas un jeu que moi, j'aurais signé, etc., ça soit un jeu qui soit vraiment un bon produit que les gens vont aimer et qui a toutes les chances de marcher.
Il y a une ligne éditoriale qui est définie.
Des bons jeux.
Ok.
Non, il y a un spectre éditorial qui est large. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller, on va aller du jeu enfant au jeu expert. Mathieu, son ADN, c'est le jeu expert. On en fera, si c'est un excellent, ce que je lui ai dit. Moi, j'ai aucun problème à faire du jeu expert. Il y a une sorte de, d'adage dans le monde du jeu qui est faux. C'est de dire que les jeux experts, ça se vend pas. En fait, les très bons jeux experts, ça se vend bien. Point. Et donc, faut arrêter de raconter des conneries quand c'est bien, ça se vend. Enfin, quand c'est très bien.
Ouais.
C'est pas facile à faire, hein. C'est pas ça que je dis.
Petite question, mais Mathieu, donc, va travailler directement chez Mosaic, mais il est chez Soif.
Il a quitté Soif.
D'accord.
Il a démissionné, et donc maintenant, il est à temps plein, ou à 4/5e. Je...
Ok.
Voilà.
Ah oui, mais du coup, il a pas pu cumuler les deux. C'était une de nos questions, puisque.
Non, non, il peut pas, il cumule pas les deux. Il a quitté Soif, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça.
Ok. Voilà. Et là, vous avez fait donc un appel à candidature de est-ce que vous avez des bons jeux à nous proposer?
Exactement.
Des très bons jeux, je
répète. Des très bons jeux. Ben, l'idée, c'est vraiment, dans ce communiqué de presse, j'ai le cœur, outre le fait qu'on présente nos autres, les gens qui vont travailler l'équipe, il y avait vraiment la volonté aussi d'expliquer comment on va travailler. C'est ce qu'on avait fait sur le communiqué de presse de Playpunk, on avait dit, nous on cherche des auteurs qui sont prêts à travailler avec nous. Parce que je pense, et dans ma carrière j'ai quand même signé pas mal de jeux, c'est très très rare d'avoir un jeu où il n'y a rien à changer. Et c'est pas pour ça que le projet est pas bien, c'est parce que le projet il doit maturer, il doit avoir un regard frais et neuf de l'éditeur qui le regarde et qui va le porter et qui va avec l'auteur faire de ce projet vraiment super un excellent jeu. Ou un excellent produit, parce que moi j'ai pas peur de parler de produit, même si c'est un jeu et que c'est un produit culturel, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit être achetable, qu'on a envie d'acheter et qui est vraiment, enfin qui est facile d'utilisation. Quoi. Donc ça implique pas mal de choses, de concessions parfois sur le game design, sur le matériel, sur l'écriture, sur la durée. Enfin, plein de choses qui sont de l'ordre de notre métier.
Et du coup, avec cette volonté de faire des bons jeux, de bien les travailler, vous vous êtes fixé à un calendrier de production, de sortir un jeu par an ou je sais pas ou non.
Non. Il y a pas de. Il y a clairement une volonté de faire une société qui rapporte de l'argent. C'est là, c'est la base. On n'est pas là pour. Enfin voilà. C'est clairement, il n'y a pas d'ordre de marche et de. On va pas sortir un catalogue de jeux. On est pas vraiment. On reste une société du ferraille indépendant qui va faire des jeux auxquels il croit. On va pas sortir avec un catalogue de 4 jeux, etc., avec une série de jeux dans telle gamme, etc. Non, on va faire vraiment, c'est l'ADN de toutes les boîtes que j'ai faites ou que j'ai co-créées. Ça va être d'abord les jeux qui parlent, et petit à petit, on construira une maison d'édition, j'espère solide et qui a un beau catalogue.
Donc, cet appel à candidature a été fait il y a quelques semaines. Là, on est sur le dernier jour de Cannes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses?
Oui, je sais que Mathieu a été vraiment ouais. Très sollicité. Il a rencontré pas mal d'auteurs, on en a déjà parlé. Il y a des projets qui lui plaisent. Il faut savoir que dans le communiqué, on avait déjà annoncé qu'on avait signé un jeu qui est des auteurs de Fourmis. Donc, c'est un jeu qui est pour l'instant à cheval entre expert et initié. On va vraiment essayer de le mettre en initié. Qui a de nouveau une mécanique de carte unique sur le thème des oiseaux pour l'instant. Donc, c'est Mathieu qui va faire le dev. Moi, je serai vraiment là pour l'épauler, voir le projet à certains moments et voir lui donner des axes de discussion, réfléchir au jeu. Et donc, on espère peut-être une sortie 2027, fin 2027, quelque chose comme ça.
Oui, donc il y a quand même pas mal de temps de développement accordé.
Oui, ça, enfin, dans la façon dont on travaille, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser reposer le projet, il faut réfléchir, il faut travailler avec les auteurs, il faut qu'ils reviennent, etc. Il n'y a pas de... Dès que le jeu est un petit peu velu, ça prend vite du temps, et je pense que c'est la bonne solution. Moi, j'en suis convaincu depuis toujours, depuis 25 ans, mais voilà.
Et tu parles de jeu velu, mais dans votre communiqué de presse, vous annoncez donc Aurélie, Raphaël, oui. qui fait partie d'un des 4 membres, va travailler sur des jeux enfants très prochainement.
Oui, tout à fait. Elle est en congé mater et donc elle va commencer en mars. L'objectif, en tout cas, c'est qu'elle elle fasse 2 jeux. Voilà, on est en train de discuter un petit peu. Donc elle a pas encore pris de rendez-vous ici maintenant, on lui a demandé de faire au moins 2 jeux. On discute déjà à faire une réédition parce que moi, il y a des jeux enfants que j'adore, que je ne comprends pas qu'ils ne sont pas sur le marché, qui ont été, à mon sens, pas parfaitement bien édités à l'époque, mauvais prix, mauvais placement graphique, etc. Donc voilà, on verra. Il faut savoir que dans le petit fil rouge que j'ai fait, tous les jours j'apprends mon métier, encore maintenant. Le métier du jeu enfant, je le connais peu. J'achète plus de jeux enfants, je regarde la production, etc. Mais mes filles sont trop grandes maintenant pour que j'achète des jeux enfants. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un de très compétent comme Aurélie. Et même le marché est plus compliqué. C'est-à-dire que installer des jeux sur le long terme dans le jeu classique, adulte, famille, c'est facile. Enfin, facile. C'est en tout cas plus fréquent. Le jeu enfant, quand les enfants ont 4 ans, eh ben, ça roule. Et donc, il y a des références, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de grands classiques, puisque les enfants de 4 ans qui ont joué ne vont pas le proposer à leurs potes quand ils ont 8 ans, etc. etc. Donc, le marketing viral est quand même plus complexe, mais j'ai peur de rien.
Pour tout dire, quand j'ai lu rapidement entre les lignes votre communiqué de presse, j'ai vu studio et je me suis posé la question, tiens, ça va être un studio de développement. Et j'ai dû chercher dans le communiqué de presse le fait que vous éditeriez des jeux en propre et que vous étiez une société d'édition. Vous n'avez pas un peu peur avec ce nom
Non, parce que déjà faire des noms de société, c'est très compliqué. On a cherché, Mosaïque est venu au tout démarrage du projet, puis on a cherché, et puis c'est le nom qui nous plaisait le plus. Et en fait, le studio, c'est pour faire le parallèle qui est aussi dans le communiqué de presse avec le cinéma, la réalisation, etc. J'ai envie maintenant que le milieu redéfinisse notre métier. Je pense que depuis toujours, on parle d'éditeur de jeux, je pense que c'est pas le bon terme. Dernièrement, on a vu apparaître le mot ludiste pour définir exactement qui on était. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand on dit qu'on est gamer, les gens savent pas de qui on est, qui on fait. On pense qu'on est du jeu de rôle, on pense qu'on fait du casino, j'en sais rien. Ludiste, j'aime bien. Parce que ça dit exactement notre métier, notre passion. Il y a quelques années, au début du jeu de rôle, il y a 20 ans, ils ont discuté du mot, parce qu'ils disaient, on aimerait bien expliquer qu'est-ce qu'on est, on fait du jeu de rôle, mais dire on fait du jeu de rôle, c'est chiant. Et donc, il y avait eu le terme roller ou rôliste, c'était roller qui avait été lancé dans Casus Belli, et c'est rôliste qui a gagné la guerre. Et maintenant, cet acte qu'ils ont fait, cet acte linguistique de créer un néologisme, c'est un acte fort, et maintenant, il est tout à fait banal. Il n'y a personne qui va dire... Rôliste, c'est quoi? Mais rôliste, c'est le mot qui fait que je fais du jeu de rôle. Et notre métier évolue en permanence. Ça fait 25 ans que je le fais. Tout a changé. Et tout est resté le même. Mais il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué. Et donc, je pense qu'il est temps maintenant de changer ce nom parce que ça fait 25 ans que je fais des interviews et ça fait 25 ans que les gens n'ont pas encore compris mon métier. Et donc, ou en tout cas, pas la subtilité qu'il y a derrière. Ils pensent que je prends un proto et que je vais chercher un illustrateur et qu'on va faire un jeu.
Il y a peut-être des maisons d'édition qui fonctionnent plus comme ça.
Bien sûr.
Et le distinguo est intéressant.
Voilà, je suis bien d'accord. Attention. À l'époque, quand on a fait pour Playpunk, j'avais déjà envie, évidemment, c'est une de mes marottes depuis longtemps, avec Antoine, etc. Et Antoine me disait, et il a raison aussi, il faut que les gens comprennent le terme. Et on n'a pas besoin de redéfinir un terme, il faut que les gens comprennent que notre métier, c'est ça. Et en fait, sur ça, je suis pas d'accord avec Antoine, et c'est pas grave. C'est pas encore le cas, donc j'ai envie de rechanger, de bien montrer ce terme en disant, ben voilà, tout le monde ne fera pas comme... Le terme metteur en jeu s'applique aux éditeurs qui travaillent de la façon assez classique des indépendants. C'est souvent le cas comme... Enfin, il y a plus ou moins de travail d'édition, on va dire, plus ou moins de travail de metteur en jeu, je sais pas comment... Ça se conjugue difficilement, mais il y a des gens qui, en effet, prennent un jeu, vont chez le graphiste et le sortent. Ça marche très très rarement. Même les grosses boîtes, ils vont marketer le truc, ils vont le réfléchir, ils vont faire des allers-retours, etc. C'est pas les mains dans le cambouis comme les petites maisons d'édition qu'on a, etc. Mais ça n'empêche que c'est vraiment beaucoup plus que de lire un livre, de faire 3 retours et de demander et d'aller l'envoyer chez l'imprimeur. Et je réduis, c'est plus malin que ça, l'édition de livres, etc. Mais il n'y a pas tous les axes comme il y a dans un jeu de société. Dans un jeu de société, quand vous le signez, on va devoir choisir le nom. Ok. On va devoir choisir le format de boîte. Ok. On va toujours se dire la durée de la partie. Ça peut changer, hein, pour pas mal de critères. Parfois, un jeu est trop long, trop court, etc., etc. On va devoir changer les règles. Parce que, parfois, des règles qui sont pas comprises, il faut pas les laisser. Il faut trouver une autre solution. On va devoir choisir des illustrations. On va devoir choisir le matériel. C'est énormément de facteurs. Vous allez me dire, on peut choisir la couleur du papier, le grammage du papier. Ok, mais voilà. C'est quand même plus limité, etc. Et donc, oui. L'idée, c'est que je veux vraiment faire le parallèle entre la mise en scène théâtrale et la mise en scène cinématographique, parce que c'est pas le réalisateur qui joue qui joue, ça c'est certain, mais c'est lui qui va le réfléchir avec eux à la façon de jouer, au ton de la voix, à la façon d'être habillé, le rythme du film, etc. Un même scénario peut être une série, un film, un court métrage, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas la même chose, mais c'est très proche, c'est les mêmes modèles de pensée, les mêmes types d'actions qu'on fait au quotidien.
On remarque beaucoup de scénographie dans le jeu. On sent qu'il y a une démarche volontaire pour la mettre en avant.
Oui, tout à fait. Ouais. Et en plus, il y a des choses... Tout le monde ne voit pas la même chose dans un jeu. Je vais prendre Captain Flip, que vous connaissez. Il y a une narration dans les plateaux, dans le jeu de base et dans l'extension, que les enfants voient, que les gamers n'ont pas vu. Mais ça, nous, on a réfléchi à parler à ces deux gens-là. Quand vous allez au cinéma et que vous allez voir un Pixar ou n'importe quoi, les parents rigolent et les enfants rigolent, mais pas toujours la même chose. Mais ça a été réfléchi en amont, etc. Donc, c'est un vrai travail. C'est pas la même chose, mais ça en est proche.
Donc on comprend dans tes mots que vous ferez que du développement et pas de localisation.
Ah oui, non, la localisation, faut arrêter. C'est ce qui me choque le plus dans les remises de prix, etc. Et pourtant j'ai gagné avec Time's Up, et à l'époque j'étais con et j'aurais changé mon discours si j'étais un peu maturé adulte à l'époque. Faut arrêter. Moi, les localisateurs qui prennent tout le crédit du travail de l'éditeur, ça me casse les couilles. C'est une aberration professionnelle. C'est un très beau travail économique et commercial de localiser des jeux. C'est un très beau travail de traduction. Mais ne dites pas que vous avez fait le jeu. Ça me hérisse le poil. C'est un mensonge. Et c'est prendre les crédits de quelque chose que vous n'avez pas fait. Sur BGG, je dois me battre chaque année pour faire enlever les distributeurs de l'affiche à la zone publisher. C'est des gens donc qui font un excellent métier. Je ne critique pas leur métier, mais je ne dis pas que je suis distributeur. Donc ils ne disent pas qu'ils sont éditeurs. Quand je vois des gens qui montent sur scène, qui ont reçu un As d'or et qui disent merci pour l'équipe, c'était super, et qui oublient de nommer le mec aux États-Unis qui a travaillé pendant un an et demi au jeu, qui a fait tous les choix compliqués, les marches arrière, les marches avant, qui a décidé que cette carte-là, elle ferait ça, ça me rend fou. C'est pas ça. Ça n'existe pas dans le cinéma, hein. Dans la littérature, quand on monte sur scène, on félicite l'auteur. Enfin, dans le cinéma, on va toujours féliciter le réalisateur. Hein. On s'en fout du studio. Ça n'arrive pas dans ces genres de métiers-là. On s'en fout. Le mec qui a traduit. Enfin, Gallimard, c'est super, mais c'est quand même l'auteur et la personne qui a porté le livre qu'il faut féliciter. Pas le mec qui a traduit, qui a fait un contrat de distrib. Quoi.
Les jeux que vous prévoyez de sortir, d'éditer, est-ce que vous imaginez quelque chose multilingue et vous visez un secteur de chalandise international?
Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Le but, c'est vraiment d'éditer comme on. C'est une maison d'édition tout à fait normale. Sauf qu'elle a bien redéfini comment elle veut travailler pour elle et pour les gens avec qui elle va travailler. Et donc le réseau de vente sera assez classique. Une chose qu'on va se permettre de faire, il y a une volonté d'incubateur derrière cette boîte. Mosaïque, c'est vraiment le principe qu'on peut ajouter des pièces, etc. Que ça va être. Puzzle, c'était pas moche, c'est un peu moche, donc on a pris Mosaïque, c'était un plus joli mot. Mais dans une deuxième étape de la boîte, je rêve d'avoir des metteurs en jeu invités. J'ai déjà fait des appels du pied à certaines personnes qui sont à la retraite, mais qui aiment trop la retraite. Je fais un petit clin d'œil à Christian, le mets. Mais il y a des gens dont j'aime le travail, et j'aimerais bien, s'ils ont un proto fou, et qu'ils ont de l'expérience. Je veux pas que Jean-Paul Michemuche de la rue se dise « j'ai un super jeu, je vais être un excellent metteur en jeu ». Non, mais pourquoi pas, ça me dérange pas. J'ai vraiment envie qu'on ait cette logique de « ce jeu est de » et il a été mis en jeu. Et attention, je veux certainement pas prendre la place de l'auteur. L'auteur, c'est sacro-saint, c'est son travail, c'est pas la question. Mais ça n'empêche qu'on a une façon de faire. Et cette façon de faire, elle peut avoir plus ou moins d'importance. Il y a des jeux où on est moins présent quand même. Il y a des jeux sur lesquels on est très présent. Plutôt les jeux initiés, etc. Mais même famille. Dans Captain Ship, on a été très très présent sur le développement. Et c'est super pour Paolo, et c'est Paolo et Remo les auteurs. Mais Captain Ship ne serait pas Captain Ship si on n'avait pas travaillé avec eux. Et je pense qu'il aurait été chez un autre éditeur. Je pense que le jeu aurait été beaucoup moins bien, que ça aurait pas été un succès. C'est pas très modeste de ma part, mais j'en suis convaincu à 100%. Parce que je sais ce qui a évolué, je sais les modifications qu'on a faites, et peut-être qu'ils auraient été dans une autre direction, donc ça aurait peut-être été génial. Mais je pense que ça aurait pas été aussi bien.
Quand j'entends ton discours et que je relis le manifeste, ça me fait penser un peu à une méthodologie de Days of Wonders, de sortir peu de jeux, mais de bien les travailler et vraiment se concentrer sur avoir un jeu extrêmement bien fini et de cibler un bon public.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et moi, quand j'entends ce que tu dis, j'entends, j'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie, que je sais professionnels et qu'on passe encore un bon moment, même dans ce travail-là.
Oui, bien sûr. Mais il faut savoir que la boîte, elle est comme Playpunk, elle est éclatée. C'est-à-dire que Thomas, il est à Bruxelles, moi je suis à Liège, Mathieu, il est au Havre, et Aurélie, elle est globalement dans le sud de la France, je sais pas où. C'est des boîtes modernes, c'est des boîtes 2.0, c'est des boîtes qui doivent travailler avec des gens qui sont responsables, autonomes, et qui sont matures, en fait. C'est ça. Et je veux plus me contraindre à avoir une boîte spécialement physique au même endroit. Il y aura des bureaux, peut-être à Montaigne, si ça fonctionne. Playpunk vient d'avoir ses premiers bureaux à Épinal, sachant qu'Antoine est à Valence. Moi, je suis à Liège, donc c'est bizarre, on s'en fout. C'est comme ça, les patrons, ils sont pas au bureau, mais ça marche quand même.
Et vous avez déjà imaginé des réunions régulières, des points par visio, enfin...
On verra bien.
Ouais.
On comprend bien que c'est surtout Aurélie et Mathieu qui vont travailler, donc je pense que c'est eux qui seront plus en contact. Et puis après,
ils ont chacun leur leur allez, terrain gardé, je sais pas comment on
dit. Leur domaine.
Leur domaine. Ouais. Et donc, il y aura des réunions, on fera des rencontres, mais ça va être vraiment durant des week-ends jeux, ce genre de choses. On n'a pas vraiment de faire des réunions pour parler du quotidien, etc. On a vraiment besoin de se retrouver à certains moments autour de la table, de jouer les jeux et les projets des autres, enrichir de la discussion les projets. C'est ça qui va se faire. Et donc ça, on aura des sessions en live à quelques endroits de la France ou de la Belgique plusieurs fois par an pour travailler, quoi.
Et je suis curieux, justement, sur des entreprises d'édition comme ça un peu éclatées, vous vous servez de logiciels comme Tabletop Simulator ou autre pour faire des oui. sessions de jeux à distance pour constater les micros évolutions sur oui, attendre oui, le oui. prochain rendez-vous.
Oui, par exemple, les auteurs de Fourmis, hein, ils n'ont pas d'exemplaires physiques de leur jeu. Ça me rend dingue. On leur a dit, c'était la première chose que Mathieu leur a dit, les gars, on va faire un vrai proto, on va jouer avec le vrai matériel. Parce que ça, c'est pas la même chose, Tabletop Simulator. C'est bien, mais c'est pas la même chose. Et donc, oui, on a des sessions en Tabletop Simulator. On l'a fait, par exemple, dans le développement de Playpunk, on fait du Tabletop Simulator. Mais il n'y a rien à faire. Moi, je préfère qu'on prenne le train, qu'on se retrouve, qu'on joue, on discute, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut ne pas voir dans Tabletop Simulator.
Oui, et puis tout ce plaisir de la manipulation aussi qui entre en jeu, de cette scénographie, tu parlais, donc ouais, le matériel, sûr. Il fait pour beaucoup.
Puis ce qui se passe autour de la table, quand c'est une table virtuelle, c'est pas tout à fait la même chose.
Et par exemple, c'est un vieil exemple que j'ai déjà cité plusieurs fois, hein, mais pour vraiment indiquer le détail dans lequel on est amené à réfléchir, pour Seven Wonders, une semaine avant d'envoyer en prod, on a décidé de changer le format des cartes. Le format des cartes de Seven Wonders, c'était un format Magic, standard américain, et on a eu une sorte d'illumination divine, on va dire ça comme ça, en tout cas une illumination d'éditeur. C'est qu'on ne voulait pas que le jeu soit réduit à un jeu de draft. On voulait que ça soit une expérience, et donc le fait de changer et de prendre un format tarot allongé, ça permettait aux gens, aux magiqueurs, etc., de pas être dans le même univers tactile. Et il n'y a personne qui a jamais dit que Seven Wonders c'était juste un jeu de draft. C'était Seven Wonders, c'était un jeu de civilisation de 30 minutes de 2 à 7 joueurs. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si on n'avait pas changé le format de carte? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce format est beaucoup plus appliqué maintenant, etc. Mais c'était différent. Et donc les gens avaient déjà une expérience différente. Ils n'étaient pas dans un simple jeu de cartes, ils étaient dans un jeu de cartes avec des formats un peu bizarres. À l'époque, il y avait vraiment. C'est pas très bizarre une carte comme ça, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose.
J'ai une question qui me vient comme ça, mais si un proto est proposé et à Playpunk et à Mosaïque, tu t'abstiens?
Non, parce que je le verrai. Je sais pas s'ils sont montrés aux deux, déjà. Moi, Mathieu, il va choisir ses jeux, on en parlera. On verra bien. Je suis un grand garçon, mais c'est pas moi qui ont. C'est les protos pour Mosaïque, faut pas les envoyer à moi. Hein. Mathieu, il va gérer son réseau d'auteurs avec qui il aime bien travailler, avec qui il va créer des relations, et on verra bien. De toute façon, si ça devait arriver, c'est l'auteur qui choisira avec qui il a envie de travailler. S'il préfère travailler avec Mathieu ou avec nous, bah, tant mieux. Moi, je pense que je suis très différent de Mathieu. Je pense qu'il est pour plein de bonnes, enfin, on a une sensibilité différente. Moi, j'aime vraiment bien, comme Antoine, les sensations, l'expérience de jeu, etc. Mathieu, il est plus sur du développement, il est un peu plus sec, etc. Donc, je veux qu'il mette plus d'amour, il le sait, etc. Mais voilà, c'est des façons différentes de travailler. C'est la même chose et ce que les auteurs ne doivent comprendre, c'est qu'il ne faut pas présenter n'importe quoi à n'importe qui. Vous devez réfléchir à vos jeux et les présenter aux éditeurs à qui ça correspond et avec qui vous avez envie de travailler. Jouez les jeux des éditeurs, voyez si vous aimez bien leurs jeux, allez leur présenter ces jeux-là si vous aimez bien leur travail. Les jeux ne vont pas être de la même façon et pas être les mêmes s'ils sont signés chez des gens différents, si les gens font leur métier.
Un peu difficile de cerner la gamme Mosaïque pour l'instant. Du coup,
d'accord, je suis d'accord. C'est large. On va dire large et bien. Oui, bien sûr.
Oui, mais on a compris.
Voilà. Mais voilà, vous inquiétez pas. Mathieu a une idée derrière la tête. Aurélie a une idée derrière la tête et ils rencontreront des jeux. Enfin, voilà, je suis pas inquiet. Mais de toute façon, regardez, Playpunk n'a que deux jeux. On a fait des jeux très différents. Reproduction à l'époque, les gens pensaient qu'on faisait que des jeux pif-paf-pouf, parce qu'on a fait Time's Up, on a fait Ghost Stories, on a fait Seven Wonders, on a fait tout le spectre ludique, on a même fait des jeux enfants. Laissez-nous faire des choses qu'on aime bien faire, et on essaie du mieux qu'on peut.
Et on y jouera avec plaisir.
Oui, je fais bien. Voilà.
Donc Mosaïque, tu l'as dit, n'attendez pas un stand à Cannes l'année prochaine, c'est plutôt pour...
C'est peu probable, oui, on verra bien. Il y aura peut-être un truc à Paris Ludique si on a déjà un proto à montrer, etc. On va aller doucement mais sûrement. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, les éditeurs travaillent bien en amont le dev de leur jeu. On avait montré Zenith à plein d'endroits à l'époque, on avait montré Captain à plein d'endroits, etc. C'est pas que du marketing, hein, c'est du vrai travail de dev. Ça permet d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours des boutiques, des joueurs qui nous disent ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, etc. Faut filtrer, mais il faut entendre les critiques qui sont pertinentes pour faire améliorer le jeu.
Moi, je pense qu'on a à peu près balayé nos questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ?
Oui, j'ai quelque chose d'autre à ajouter. Je disais en début d'interview que le monde évolue. Et ça fait longtemps qu'on discutait entre confrères au sein de la WEJ, etc., donc l'Union des éditeurs de jeux, qu'on avait besoin de filières qualifiantes pour notre métier. À nouveau, le jeu, si je fais un parallèle avec le jeu vidéo, il y a plein d'écoles de jeux vidéo maintenant, mais en fait, il y a une époque où il n'y avait pas d'école de jeux vidéo. Et maintenant, on a la chance d'avoir le Board Game Campus à Liège, qui a été lancé par Tanguy Gréban. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu.
L'année dernière.
Voilà. Je veux quand même en parler un petit peu.
Je t'en prie.
Parce que c'est clé. Et c'est bien symptôme d'un... C'est un symptôme, c'est pas une maladie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment indicateur d'un milieu qui évolue et qui se professionnalise et qui a besoin de ressources, qui a besoin de gens jeunes qui sont formés, qui ont pendant un an, même si c'est pas l'université, même si c'est pas un truc, qui ont eu un an le temps de réfléchir à ce que c'est un jeu, ce qu'est le produit, c'est dans quel univers c'est, sur quoi on commence, qu'est-ce qu'on doit déjà savoir avant de réfléchir à travailler dans ce métier-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose de super. Là, on a trois jeunes sur le stand du côté de chez Playpunk. Et c'est vraiment génial de se dire que ces mecs-là, ils vont, pendant un an, ils vont vivre jeux de société, ils vont réfléchir jeux de société, ils vont casser des jeux de société, ils vont apprendre un milieu qui n'est pas toujours... Jouer n'est pas la seule solution pour apprendre le jeu. Il y a plein d'autres choses à faire. Il faut comprendre pourquoi un éditeur a mis tel truc, etc. Donc là, c'est une vraie opportunité pendant un an de réfléchir à ça. Et avant de faire le communiqué de Mosaïque, j'ai été là-bas et j'ai fait du rétro-editing. J'ai fait un exercice. Donc le matin, les vieux schnocks qui viennent chez les voir et qui ont de l'expérience, ils leur posent des questions toute la matinée. Et l'après-midi, je voulais leur faire un exercice. Parce que c'est beau les paroles, mais je voulais qu'ils voient par le travail de l'éditeur. Par leur travail. Et donc, je leur ai amené le proto de Captain Phipps et le proto de Zenith, ce que nous, on a signé. La boîte moche, sans illustration, avec une règle en Word, avec des icônes faites par les auteurs, etc., etc. Ça a été court, ils n'ont eu que 3 heures, 1 heure et demie par jeu, etc. Mais ça leur a ouvert les yeux sur ce qui a bougé, en fait. Il y a eu énormément de modifications et nous-mêmes, on s'en rend plus compte, en fait. Mais c'est ça qui était vraiment, et c'est un exercice vraiment chouette qui permet vraiment de montrer, en fait, regardez, entre l'avant et après, quoi. Un an et demi de travail par des professionnels qui ont fait un jeu. Eh ben, regardez, de ce projet très prometteur, on a fait la boîte que vous avez dans les mains, que vous avez joué sans vous poser, sans avoir une même idée de ce que c'était avant. Et donc voilà, donc j'ai trouvé l'exercice vraiment chouette et je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour montrer l'évolution des choses. On avait fait une expo pour Seven Wonders il y a 10 ans à Cannes et on avait le tableau avec toute l'évolution des cartes. Il y avait 17 évolutions de cartes du début d'Antoine et puis à la fin, etc. Je pense que c'est des choses qu'il faut présenter pour que les gens comprennent les choix, parfois mauvais au final, hein, mais que les éditeurs sont amenés à faire.
Et ça me ramène sur une question que j'ai en tête régulièrement, c'est quelle est la limite entre ce que l'éditeur se permet de modifier, ce que l'auteur va accepter, est-ce que c'est toujours fait en bonne entente, est-ce que ça peut amener à une divergence d'opinion entre les deux, parce que on sait que parfois il y a certains auteurs qui voudront pas toucher du tout à la mécanique, et il y en a d'autres qui laisseront complètement le jeu une fois qu'ils ont donné le proto, c'est à la maison d'édition de faire.
Alors chez nous, et la façon je pense qu'il faut faire, parce que c'est celle que j'applique, donc je pense que c'est la seule, mais c'est pas vrai, c'est très simple. En théorie, sur le papier, c'est l'éditeur qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est de la connerie. Faut pas faire ça. C'est toujours une discussion. Et pour le final cut, s'il faut, c'est toujours l'auteur qui tranche. Parce que c'est quand même son jeu, c'est son œuvre, c'est sa vision. Il connaît mieux son jeu que moi. Moi, je le regarde de l'extérieur, je le critique, j'essaie de l'amener à l'endroit que je veux. Car j'espère souvent la vision initiale de l'auteur. Mais c'est l'auteur qui choisit. Maintenant, il faut que le jeu nous plaise, il faut que les choix soient bons, etc. Parce que c'est quand même l'éditeur qui met la main à la pâte et qui prend des risques financiers. Donc voilà, donc en plus de 25 ans de carrière maintenant, j'ai jamais eu de conflit du tout avec le moindre de mes auteurs. On a toujours été d'accord ensemble de faire ce jeu-là, sous cette façon-là, etc. Et quand on n'était pas d'accord, c'était l'auteur qui gagnait. Mais en fait, le but n'est pas de faire une guerre, c'est que si... Toutes les boîtes que j'ai faites, j'ai toujours fait avec un associé. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que tout la qualité naît du débat. La qualité naît du fait que ce jeu-là, si cette partie-là dans ce jeu-là, je ne l'aime pas, et que toi tu l'aimes bien, il faut qu'on trouve une solution où on l'aime tous les deux. C'est une sorte de garde-fou permanent de si on est seul, on s'aime de base, mais on va pas être à l'écoute de ce genre de choses. Et donc avec Cédric à l'époque, avec Antoine maintenant et avec Mathieu, etc. et Aurélie, on va discuter. Et il faut que tout nous plaise. Et si ça nous plaît pas, c'est qu'il y a mieux à faire et qu'il faut trouver une solution qui nous plaise à nous. Et il se fait que visiblement, quand nous on aime bien, les gens aiment bien. Parce qu'en fait, mécaniquement, on a enlevé tout ce qui grattait de l'un et de l'autre, et c'est en fait ce qui va gratter chez les gens qui vont l'acheter ou chez les joueurs qui vont y jouer. Et donc c'est une sorte de garde-fou qui permet de enlever toutes les petites choses qui grattent. Et donc voilà. Donc non, c'est l'éditeur qui a le final cut, mais ça sert. On ne veut. C'est l'auteur qui est le garant de son œuvre. C'est lui qui va faire les derniers choix. Et si on n'est pas d'accord, c'est lui qui va trancher.
Okay. Très bien, très intéressant, effectivement. Et je pense qu'un auteur, de toute façon, est déjà tellement content que son jeu... Alors, quand c'est un grand auteur qui a déjà plusieurs jeux, peut-être pas, mais en général, quand tu es auteur et que tu as signé ton jeu, tu es déjà content qu'il soit signé, peut-être dans un certain sens. Donc, tu as plus être aussi ouvert aux critiques et à l'amélioration apportée par l'éditeur.
Oui, mais il faut aussi faire attention à ce que je dis aux jeunes auteurs débutants qui m'écoutent. N'écoutez pas tout, n'acceptez pas tout. Discutez, attendez d'avoir des arguments forts. Beaucoup d'éditeurs se projettent dans beaucoup de modifications, etc. et se lancent dans des modifications. Enfin, non. Je reste convaincu que l'auteur comprend bien son jeu, qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui prennent trop de place. Moi, mon but n'est pas de prendre de la place. Mon but est d'amener le jeu là où l'auteur... Enfin, de renforcer tout ce que l'auteur avait prévu. Je n'ai jamais dénaturé un jeu. Et je pense qu'il y a parfois des jeunes auteurs qui se laissent trop faire et où ça a dénaturé. Et donc, c'est compliqué. C'est un vrai équilibre, un travail, une écoute de chacun, des arguments qui doivent être, et des discussions qui doivent être menées pour que ce jeu soit amené jusqu'au bout dans la bonne direction. Et en effet, il y a des jeux qui étaient très bien et qui ont été détruits par des éditeurs qui se sont octroyés trop de pouvoir, qui ont fait des mauvais choix, ça arrive, et qui, en effet, parfois, les auteurs n'étaient pas d'accord. Moi, j'ai jamais travaillé avec un auteur qui n'était pas d'accord de travail qu'on faisait, quoi.
C'est ce que j'appelle l'intelligence collective, de mettre ensemble toutes les bonnes idées pour sublimer le jeu.
On est bien d'accord.
Et comment vois-tu certaines maisons d'édition où le chef de projet arrive à la fin à mettre son nom en tant que co-auteur sur la boîte,
hein? Je pense qu'il ne faut pas le faire. Chacun doit avoir sa place. Moi, je ne veux pas prendre la place des auteurs, je veux avoir ma place à moi qui est développeur ou metteur en jeu. Quand on a fait Mascarade chez Repos, Bruno, que je connais depuis très longtemps, etc., a dit dans toutes les interviews, en fait, Thomas et Cédric, ils pourraient avoir leur nom sur la boîte, ils ont tellement créé de personnages, ils ont tellement apporté au jeu, etc. En fait, non, parce que c'est pas la même chose. Moi, je suis pas du tout auteur, j'ai pas la fibre, je n'ai aucune intention et mon esprit n'est jamais tourné vers créer un jeu ex nihilo. Par contre, j'ai visiblement, après force des années, une passion pour travailler avec l'auteur, pour le faire réfléchir à ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on peut améliorer, apporter des nouvelles idées, etc., apporter des nouveaux personnages, etc. C'est pas du tout le même métier. Mais c'est deux métiers bien séparés et qui ont tous les deux une raison d'être, qui ont tous les deux un axe artistique et qui sont tous les deux importants, mais l'un n'est pas plus fort que l'autre. Et sur l'œuvre, quoi qu'il arrive, c'est l'auteur le premier. Moi, je suis le metteur en jeu. Je suis celui qui a permis que ce prototype est devenu la chose. Mais c'est pas moi qui l'ai. J'ai fait plein de petites tâches en même temps, mais j'ai pas dessiné. J'ai écrit la règle, par contre, très souvent. C'est pas moi qui ai écrit libéré. Enfin, j'ai fait plein de trucs, mais c'est pas moi quand même. J'ai été le coordinateur de ce truc que vous trouvez en boutique. Et donc, je ne mettrai jamais mon nom sur une boîte de jeu, même si j'ai travaillé à mort dessus. Il y a des modifications qui sont essentielles et qui sont dans des jeux qu'on a amenés et qui sont pas du fruit de l'auteur. Mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui est important. C'est qu'au final, c'est notre métier. Donc, je ne vais pas usurper la place de l'auteur.
Ok, très bien.
Merci. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ?
Non, j'ai déjà bien parlé, je crois. Pas trop.
Bah, disons que tu as répondu à toutes nos questions au fur et à mesure, à chaque fois. Merci donc pour toute cette interview et pour cette explication de Mosaic Studio. Donc, je rappelle que Mosaic Studio n'a rien à voir avec le jeu Mosaic qui vient de sortir, hein, hasard de calendrier.
Oui, bien sûr. Mais non, j'avais contacté Christian de chez Blam en lui disant, je suis désolé, on va faire notre communiqué de presse, il y a un jeu Mosaic. Il m'a dit, mais on s'en fout. Je dis, oui, on s'en fout. C'est pas grave. Ah, c'est pas écrit de la même façon. Nous, notre premier jeu, il va sortir dans un an et plus. C'est pas grave. À l'heure actuelle, trouver des noms de jeux, trouver des noms de boîtes, trouver des sites web, c'est l'enfer en fait. Il y a trop de trucs et c'est tant mieux, mais c'est vraiment donc compliqué et donc voilà. Et pour dans le petit exemple, j'ai déjà créé la fiche produit du prochain jeu Playpunk parce que je joue sur BGG, qui est la référence pour les professionnels. Pour être certain qu'un mec qui veut faire un jeu sur le même nom, on se dit ah merde, il y a un jeu Playpunk qui va arriver. Je vais pas le faire. C'est peut-être pas pour ça qu'il va pas le faire, mais
il changera le nom.
T'as réservé.
Voilà, j'ai essayé de réserver le nom, etc. Donc oui.
Très bien. Et on rappelle que Mosaic, le studio, c'est avec un C. Enfin,
c'est avec un C, ouais.
Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.